Le FestiSol, c'est le festival des solidarités qui sera organisé cette année du 17 novembre au 3 décembre. À Arras, un collectif d'assos se mobilise autour de la municipalité pour proposer des rencontres et des animations. Dans ce cadre, se déroulera notamment un forum des associations solidaires. Ça sera au Dojo à Arras Ouest le samedi 2 décembre. Et parmi les assos présentes, vous pourrez notamment rencontrer François, l'un des deux co-référents de l'antenne de l'île Grand Nord de SOS Méditerranée.
Alors, SOS Méditerranée est une association européenne, civile et citoyenne. Elle a vu le jour en 2015 à l'initiative de Sophie Beau et de Klaus Vogel, qui sont deux humanitaires, pour l'une française et l'autre allemande. Cette association a pour objectif, et unique objectif, de faire du sauvetage en mer à l'adresse des personnes qui tentent la traversée entre les côtes de l'Afrique, en particulier de la Libye, vers l'Italie. Donc cette association intervient à l'aide d'un bateau qui s'appelle l'Ocean Viking sur l'axe Libye-Méditerranée. Voilà, donc on est, et on y tient énormément, là pour faire du sauvetage en mer et uniquement du sauvetage en mer.
On rappelle quand même la situation. La situation, c'est celle de migrants qui essaient de passer de l'autre côté de la Méditerranée avec aussi donc tous les risques que ça comporte. Peut-être, je ne sais pas si vous avez des données chiffrées sur le nombre de gens à la fois qui passent et puis aussi le nombre de gens qui meurent dans les eaux méditerranéennes par an.
Tout à fait, oui, c'est une bonne question. Alors, pour préciser ces chiffres, en fait, nous, on a trois missions. Notre première mission, c'est sauver les gens, voilà, donc pour les faire passer du statut de naufragé au statut de rescapé, voilà. Ensuite, on a une deuxième mission qui est protégée, donc on les protège sur le bateau, et puis peut-être qu'on en parlera, la protection, c'est aussi les débarquer dans un lieu qui est adapté à leur situation de rescapés. Et puis la troisième mission, c'est le témoignage. Bon, on en parlera peut-être avec les missions de chaque antenne locale. Alors, pour répondre précisément à votre question, nous, depuis 2016, puisque créé en 2015, le premier bateau, l'Aquarius, en 2016, on a sauvé 38 962 personnes. Bon, ce qui est relativement important quand même. Alors, pour fixer un petit peu les choses, 38 962 personnes, c'est à peu près la capacité du stade Bollaertre. Donc, ça fixe les choses. Enfin, en tout cas, ce sont des éléments qu'on donne aux élèves, qu'on sensibilise. Aujourd'hui, d'après les chiffres de l'Organisation mondiale de l'immigration, on estime, il y a actuellement 28 195 personnes qui sont identifiées et décédées en Méditerranée depuis 2014. Alors bien évidemment, il s'agit des personnes qui sont identifiées. On ne connaît pas aujourd'hui le chiffre réel, puisqu'il y a quand même beaucoup de naufrages qui passent malheureusement inaperçus ou qui ne bénéficient pas de sauvetage. Voilà. Mais ce chiffre est important. Pour essayer de comparer un petit peu les choses, en 2014, lorsque l'Europe avait mis en place l'opération Mare Nostrum, qui était dirigée par l'Italie et qui avait des objectifs militaro-humanitaires, en une année, cette opération a permis de sauver 150 000 personnes. Donc vous voyez le nombre de personnes qui peuvent traverser la Méditerranée. 28 195 personnes décédées en un peu plus de 9 ans, on va dire, c'est quand même très très minimaliste. Donc voilà, il y a sûrement beaucoup beaucoup plus de personnes décédées.
SOS Méditerranée, c'est une association avec des faibles moyens. On pourrait se dire, voilà, c'est aussi aux autorités des différents pays à prendre en charge cette tâche de sauver les gens en mer.
Alors, si on est en Méditerranée centrale, c'est parce que malheureusement, on fait le travail que les États ne font pas. Bien évidemment, on n'a aucune subvention des gouvernements pour faire ce qu'on fait. On est financé à 90% par des dons privés, c'est-à-dire des citoyens comme vous et moi qui faisons des dons. Ces 90% sont complétés par 10% qui sont issus d'une plateforme de collectivité territoriale. C'est-à-dire qu'on a des subventions qui malheureusement ne sont pas pérennes et qui sont beaucoup plus compliquées à obtenir parce que la situation de chaque collectivité territoriale est aujourd'hui un petit peu compliquée au plan budgétaire. Donc on a des financements municipaux, départementaux et régionaux. Voilà. Il faut savoir qu'une journée en mer, aujourd'hui, c'est 24 000 euros. 24 000 euros parce que, ben, on pourra peut-être en parler. Il y a du personnel, il y a du carburant, voilà, toutes ces choses-là. Donc, si on veut résumer, oui, 90% de dons privés, 10% de collectivités territoriales, et puis une journée en mer à 24 000 euros.
Oui, justement, qui sont ces personnes, ces sauveteurs et ces sauveteuses sur les bateaux Des volontaires, mais aussi des professionnels.
Alors, sur le bateau, parce que SOS Militaire n'a qu'un bateau à 24 000 euros la journée, on ne peut pas se permettre d'en avoir beaucoup. Sur le bateau, ce sont que des professionnels. Le bateau ne nous appartient pas. Le bateau est loué. C'est un bateau norvégien avec un capitaine norvégien et un équipage norvégien. Alors, eux, ils sont neufs. Voilà. Ils s'occupent que de la navigation. Ensuite, vous avez une équipe de sauveteurs qui sont, eux, volontaires et salariés de SOS Méditerranée. Ces marins sauveteurs sont au nombre de 11. Et ensuite, vous avez une partie de l'équipage qui est composée de personnes qui sont issues de la Croix-Rouge internationale et qui prennent en charge, d'un point de vue sanitaire et psychologique, les personnes qui sont rescapées. Donc, vous avez un médecin, une infirmière, une sage-femme, une personne qui est chargée de coordonner les soins, une psychologue, parce que forcément on a des situations un peu compliquées. Et puis il y a aussi une médiatrice culturelle qui est là un petit peu pour essayer de régler les problèmes qui pourraient survenir, parce que forcément il y a peut-être des gens qui étaient en conflit sur le continent africain ou ailleurs, parce qu'on ne sauve pas que des gens qui viennent d'Afrique, c'est important. Donc voilà, cette médiatrice culturelle, voilà, donc ça fait à peu près une trentaine de personnes qui sont sur le bateau, qui sont tous volontaires, en dehors bien évidemment du capitaine et de son équipage, et qui sont rémunérés. Voilà, c'est pas des bénévoles, mais c'est tous des professionnels de la mer.
Oui, parce que c'est très compliqué. Hein. Parfois, les manœuvres pour sauver les gens, il ne suffit pas juste de lancer une bouée. Il y a des témoignages. Alors, bien sûr, d'abord, il faut repérer les navires naufragés. Et ensuite, y être à temps. Et puis, voilà, ne pas faire n'importe quoi parce que les manœuvres sont compliquées. Dans les témoignages qu'on a pu lire ou entendre, on entend aussi que même ces manœuvres-là sont très dangereuses et délicates.
Oui, alors le repérage, il se fait à la jumelle, hein, pour partie. Ensuite, heureusement, on est aidé par les autres ONG qui peuvent avoir des bateaux sur zone. Alors, il y a à peu près 15 bateaux d'ONG qui sont potentiellement susceptibles de participer à ces opérations. Ils ne sont pas tous en mer en même temps, mais bon, il y a un partage qui se fait comme ça. Normalement, Frontex, qui est aussi en Méditerranée, nous signale les choses. Et puis après, il y a des avions de surveillance. Alors Frontex en a un, bien sûr, mais il y a deux ONG qui en ont, qui nous font des signalements d'embarcations en difficulté. On est aussi aidé par, faut le dire aussi, par le Centre de coordination maritime de Rome, qui surveille donc la zone de Méditerranée centrale qui lui incombe. Et puis, vous avez une organisation, une ONG, qui s'appelle Alarm Phone, et qui, elle aussi, nous signale des bateaux. D'ailleurs, pour coller à l'actualité, l'Ocean Viking est en train d'arriver aujourd'hui à Ravenne. Et dans ce contexte-là, on a, nous, fait un sauvetage qui nous avait été signalé par Alarm Phone lors de cette remontée vers l'Italie. Voilà. Alors les sauvetages, oui, ne sont pas toujours, on va dire, tranquilles et sécuritaires, ou se font en sécurité, plus exactement. La mer Méditerranée n'est pas une mer simple, c'est une mer très méchante. Et en plus, comme vous l'avez peut-être vu sur certains témoignages, il y a quand même de temps en temps des interventions des gardes-côtes libyens qui ne nous simplifie pas la vie. Voilà. Donc il n'y a jamais d'exaction à l'encontre du bateau, mais il y a au moins des manœuvres d'intimidation qui ont été faites, et on a vécu ça au cours de l'été qui vient de se passer, puisqu'il y a une vedette libyenne qui avait manifestement, par des manœuvres d'encerclement et des coups de feu tirés en l'air, fait en sorte que le bateau ne puisse pas faire un sauvetage, ou au moins n'intervienne pas sur une zone précise. Oui, non, c'est jamais simple, c'est jamais simple.
C'est jamais simple, ça peut aussi être tragique, parce que des fois le sauvetage arrive trop tard, ou il y a une mauvaise manœuvre qui se passe, un mouvement de panique sur la barque.
Alors, là, dans votre question, il y a deux choses, en fait. Il y a effectivement, pour répondre chronologiquement, ça arrive que nous arrivions trop tard. Voilà, c'est notamment arrivé le 21 avril 2022, parce qu'il y avait eu un manque de coordination, on est arrivé sur zone beaucoup trop tard, et le bateau et les sauveteurs ont trouvé des gens qui flottaient à la mer, des noyés, en fait. Ça a énormément marqué l'équipage. Et puis, pour répondre à la deuxième partie de votre question, la première mission des sauveteurs qui abordent ces embarcations qui sont inadaptées à la traversée de la Méditerranée est de ne pas demander à ce que les gens s'affolent, parce que pour l'essentiel, ils n'ont pas de gîte de sauvetage. Et donc, tout mouvement d'affolement pourrait faire chavirer ces embarcations. Donc, effectivement, toutes ces choses-là sont prises en compte. Bon, on a un petit peu l'habitude, malheureusement. Et les sauvetages se font à partir de zodiacs qui sont débarqués du bateau, de l'Ocean Viking. Et donc, en fait, la première mission, c'est demander aux personnes de ne pas s'affoler, que le sauvetage va prendre du temps, que tout le monde va venir sur le bateau, on distribue des gilets de sauvetage de manière à sécuriser l'embarcation et les gens qui sont dessus. Et ensuite, on évacue les naufragés qui passent donc au statut de rescapés.
Le silence est maître à bord pour ne pas faire de remous. Pourvu que dorme l'eau qui dort, l'embarcation tient le coup. L'embarcation tient le coup.
Suite de notre entretien avec François de l'antenne de l'île Grand Nord de SOS Méditerranée.
Mais nous sommes peuplés à mort sur cette épave de caoutchouc. Ici l'eau douce vaut de l'or et l'or ne vaut rien du tout.
Une fois que le sauvetage est fait, il faut trouver un endroit pour faire débarquer tout ce monde. C'est dans ce contexte un petit peu qu'on entend souvent parler de SOS Méditerranée, parce qu'on entend souvent que des pays refusent l'accès à l'Ocean Viking ou à d'autres navires.
Oui, alors ça, c'est la deuxième mission, c'est protéger. Alors protéger, c'est faire monter les gens sur le bateau, les soigner physiquement et psychologiquement, et protéger, définir ce terme-là, c'est aussi parler de quelque chose dont on n'a pas du tout parlé depuis le début, c'est qu'en fait, SOS Méditerranée s'appuie sur le Code maritime international pour justifier son action. C'est-à-dire que le Code maritime international prévoit que dès lors qu'un capitaine est informé d'une détresse d'un navire, il se doit de porter assistance à ce bateau. Donc c'est ce que nous faisons. Ça ne nous est pas opposable d'un point de vue juridique, au point de vue du Code maritime international. Et ce même Code maritime international prévoit que lorsque les personnes sont sauvées, donc sont sur le bateau, le sauvetage est terminé lorsqu'elles ont été débarquées dans ce qu'on appelle un lieu sûr. Et un lieu sûr, ça a une définition, à la fois maritime et au niveau de l'ONU. C'est un endroit où les gens sont en sécurité, ne risquent plus rien physiquement et où les droits de l'homme sont respectés. Donc forcément, nous ne pouvons pas, bien que la Libye soit responsable administrativement de la gestion des sauvetages qui se font dans sa zone d'influence, on va dire, on ne ramène pas ces personnes-là dans ce pays-là. Donc on se tourne vers les pays européens et notamment l'Italie, avec les difficultés effectivement que l'on connaît et qui sont majorées depuis novembre 2022, puisque effectivement, comme vous le dites, l'Ocean Viking a été très médiatisé à ce moment-là, puisqu'aucun port européen n'en voulait. On avait quand même 230 personnes à bord. Et donc le bateau a débarqué toutes ces personnes à Toulon. Et dans la foulée, le gouvernement italien a pris des mesures très drastiques vis-à-vis de l'accès de ces ports, qu'il a un petit peu libéré au début du mois de janvier 2023, puisqu'il a pris un décret. Alors nous, on s'en est accommodé, hein, parce qu'on débarque les gens, les rescapés. Mais en fait, l'Italie a pris un décret puis une loi qui nous impose de ne faire qu'un sauvetage à la fois. Et puis, dès lors qu'on a des rescapés sur le bateau, eh bien, il nous impose de rejoindre le plus rapidement possible un port qui nous est assigné. Donc, on mène à terme nos missions de protection, hein, mais si vous voulez, c'est très restrictif. Et puis, grosse conséquence négative de tout ça, c'est que, par exemple, le bateau dont je vous parlais tout à l'heure, il a débarqué ses passagers à Ravenne, il est en train de le faire là, à l'heure où je vous parle, et ça a nécessité 6 jours de navigation depuis l'endroit où on avait récupéré donc, cette embarcation. Donc 6 jours pour y aller, 6 jours pour revenir, ça fait 12 jours en mer où on n'est pas sur site, déjà. Et puis ça a forcément un coût, voilà, et donc ça fait exploser nos budgets, notamment la dépense journalière de 24 000 euros dont je parlais tout à l'heure. Et donc si vous voulez, nous on se satisfait de débarquer des gens, on se satisfait de les sauver, mais quelque part l'attitude aujourd'hui du gouvernement italien, c'est aussi un moyen d'affaiblir les associations à travers l'aspect financier des choses. Voilà. Alors tous les bateaux sont confrontés à la même problématique. Il n'y a pas que SOS Méditerranée, ce n'est pas un problème franco-italien, non, c'est un problème de toutes les ONG. Et c'est un véritable problème, effectivement. Donc c'est une façon voilà, de dire, ben écoutez, voilà, on accueille les gens, mais si on peut vous affaiblir d'un point de vue financier, on peut le faire. Quoi. Voilà.
Donc l'asso s'appelle SOS Méditerranée, ça veut dire que vous n'intervenez pas dans la Manche, ici, sur les côtes du Nord et du Pas-de-Calais ?
Alors, c'est une question qu'on nous pose très souvent, vu notre localisation. Alors, c'est parfois compliqué de répondre, et en même temps, c'est relativement simple. D'abord, la première chose qu'on doit dire, c'est qu'il n'y a aucune hiérarchie entre... les morts de la Méditerranée et les morts de la Manche, c'est ou de la mer du Nord, les drames humains sont les mêmes. Voilà. Ensuite, on n'a qu'un bateau. Et puis, la grosse différence, c'est que en mer Méditerranée, nous n'intervenons jamais dans les eaux territoriales. Nous sommes toujours dans les eaux internationales. Et il se trouve que dans la Manche, eh bien, c'est eau territoriale française contre eau territoriale anglaise, il n'y a donc pas d'eau internationale, donc on n'a pas d'endroit où on pourrait naviguer en toute sécurité dans le respect du code maritime. Voilà, après chacun en pense ce qu'il veut, mais les secours sont quand même organisés dans la Manche, puisqu'il y a Frontex, il y a les pêcheurs, il y a la SNSM, il y a une surveillance du CROSSMED, voilà, chacun en pense ce qu'il veut, mais les situations sont totalement différentes, mais je vous dis, bon, ceci étant, ce qui se passe en mer, dans la Manche ou en Méditerranée, d'un point de vue purement humain, et on a quand même une vocation humanitaire, hein, c'est, pour nous c'est le même problème, mais voilà, mais on n'intervient pas dans cette zone-là, parce qu'il y a un contexte qui est totalement différent.
Alors, comment s'est créée justement l'antenne régionale, lilloise, on peut dire, hein, de SOS Méditerranée ?
Alors, cette antenne, elle s'est créée en 2021, à l'initiative d'une Arageoise, d'ailleurs, qui a contacté SOS Méditerranée pour des besoins de théâtre, tout simplement. Voilà, et donc, en fait, SOS Méditerranée souhaitait avoir une antenne dans le Nord. Donc, cette antenne s'est créée comme ça, donc 4 personnes, voilà, dans une période qui était plus ou moins une période Covid. Voilà, donc aujourd'hui, ben, on est 15 bénévoles. Et on rayonne sur la métropole lilloise, la Rajoie, le Ternois. Voilà. On intervient. Alors, on fait beaucoup de sensibilisation scolaire. Et c'est en fait, on arrive à notre troisième mission, qui est la mission de témoignage. Alors le témoignage, c'est ce que je suis en train de faire là actuellement, expliquer un petit peu ce qui se passe en mer Méditerranée centrale pour essayer de changer le regard des populations sur cette situation qui n'est pas toujours relayée dans les médias. Et puis donc pour parfaire ce témoignage, on fait de la sensibilisation scolaire. Voilà, l'année dernière, en 2022, on a touché plus de 1700 élèves répartis sur les établissements scolaires du Nord et du Pas-de-Calais. On a une liste d'artistes soutien qui nous permettent de rentrer dans les salles de spectacle. Et donc, ça nous permet aussi de changer le regard, d'essayer de communiquer avec les personnes qui viennent sur ces concerts. Donc, quelques artistes qui sont connus, Yazoufri Maracas, Gaël Faye, Dizis, Chinese Man, voilà, toutes ces personnes-là nous ont permis, depuis qu'on existe, d'accéder à leurs concerts. On profite de ces accès dans les salles en accord avec les salles de spectacle qui nous accueillent de récupérer les consignes les éco-cups, merci beaucoup. Voilà, donc ce qui nous permet de récupérer un petit peu d'argent et de financer l'association. Et puis alors, dans un sens un petit peu plus large, on a aussi participé, alors on a participé l'année dernière au Festisol de Lille, voilà, où on avait fait une exposition en association avec un artiste de Lille. On avait fait donc une exposition aux Maisons Folies. On a participé l'année dernière aux Assises de la Mer, qui étaient à Lille. Voilà, on a un partenariat avec Sciences Po Lille qui nous permet aussi de diffuser un peu les informations. On a participé à la fête de la soupe le 1er mai à Lille, où là on a été invité. C'est pas, voilà. Donc toutes ces choses-là se mettent en place et contribuent à la fois à nous faire connaître, à donner une visibilité à l'association, mais surtout à témoigner de ce qui se passe et d'essayer de changer le regard des citoyens vis-à-vis de la situation en Méditerranée centrale. Voilà.
Je reviens sur cet aspect sensibilisation, c'est un combat culturel aussi. Est-ce que vous devez faire face à des oppositions aussi, je sais pas moi, des parents qui seraient à l'extrême droite, qui viendraient se plaindre parce que vous intervenez dans une école, des choses comme ça, ou comment ça se passe un peu?
Alors, pour être franc, nous à Lille, on a pas été confrontés à ce genre de situation, sauf une fois. Où on avait la veille d'une intervention qui était en lien avec une pièce de théâtre. On a des personnes issues de l'association Parents Vigilants, voilà, qui sont venues distribuer des tracts. Mais c'est la seule fois où on a été confronté à ce problème-là. D'une façon, si on étend le problème au pays, quoi, là, aux 19 antennes, oui, il y a des antennes qui ont été en difficulté, notamment en Bretagne, où ils ont été confrontés à... Alors, c'est jamais des interventions physiques, hein, voilà, mais ça existe. Voilà. Ce dont on a le plus souffert, c'est l'intervention physique qui avait eu lieu à Marseille, dans les locaux même de l'association, et qui a fait l'objet d'un jugement au tribunal en fin d'année dernière. Voilà. Mais pour être franc avec vous, il y a des oppositions, sûrement. On a des réactions d'élèves en classe qui font qu'on se rend compte que c'est vraiment important qu'on essaie de changer le regard de ce qu'ils ont sur cette situation-là. Alors, c'est pas forcément le fait des enfants, hein, mais c'est peut-être les discours qu'ils entendent chez eux.
Mais ou à la télé.
Ou à la télé, tout à fait. Mais d'opposition franche, physique, on n'en a pas vu pour l'instant. Et on ne souhaite pas en avoir.
Ah, vous avez parlé des différents événements auxquels vous avez déjà participé. On vous a croisé, il me semble, aussi au Salon du Livre, hein, le 1er mai à Arras. Hein.
Tout à fait. Vous avez tout à fait raison d'en parler. Et d'ailleurs, j'en profite pour les remercier parce que c'était la deuxième fois qu'on venait au Salon du Livre d'Expression.
Et là, vous participerez au Festival des Solidarités arrageois, c'est ça?
Absolument, on va participer au Festisol d'Arras. Alors on va faire un stand le 2 décembre De mémoire, c'est de 13h à 20h où on fera de l'information, de la communication. On est bien évidemment, lors de ces événements, à la recherche de bénévoles qui peuvent venir nous aider. Et puis, si les gens ont un petit peu le cœur sur la main, ils peuvent aussi nous aider financièrement. Hein. Voilà, on est une association qui est d'intérêt général, donc les dons qui sont faits bénéficient de réductions d'impôts. Voilà. Donc, mais bon, il faut bien qu'on en parle. Hein. Je veux dire, voilà, le financement du bateau, c'est quand même le nerf de la guerre. Mais on est aussi là pour communiquer, échanger, c'est ce qui nous intéresse, voilà, quoi. Même si dans ce genre de situation, on a parfois quand même des populations qui sont plutôt convaincues, quoi, qui viennent, mais c'est pas toujours, et c'est intéressant d'échanger. Donc on sera présent effectivement le 2 décembre.
Il y a des campagnes de collecte qui sont étalées dans le temps. Il y en a une qui démarre en décembre, c'est ça?
Oui, en général, il y a deux campagnes de collecte qui sont l'une au mois de juillet et l'une au mois de décembre. Donc normalement, au début du mois de décembre, il devrait y avoir une campagne de collecte nationale, pour le coup, qui sera faite, effectivement. Ouais, tout à fait.
Peut-être une dernière question. Vous, personnellement, qu'est-ce qui vous a... amené vers cette association, le côté humanitaire, le côté maritime.
Alors, le côté humanitaire, en premier lieu, c'est clair. Voilà, je suis issu du soin, donc ça compte. Non, mais c'est le côté humanitaire, c'est bien évidemment. Et puis, un petit peu le hasard des rencontres, parce que quand l'antenne s'est créée, ben, j'ai assisté, voilà, parce que à des visioconférences qui expliquaient à la fois la situation maritime, la situation géopolitique et la situation humanitaire. Donc, tout ça mis bout à bout, ben, je me suis dit que c'était peut-être mieux d'agir que de rester les bras croisés. Et voilà, tout simplement. Bon, mais vraiment, au départ, c'est l'humanitaire. Et plus j'avance dans cette association, plus je me dis que c'est vraiment quelque chose contre lequel on ne peut absolument pas rester indifférent. Quoi. Je veux dire, vous savez, quand on parle des gens qu'on sauve, on ne dit jamais à peu près 38 000 personnes. On est toujours précis, on dit toujours, en l'occurrence, 38 962. Parce qu'une vie sauvée est une vie sauvée et une vie perdue est une vie perdue. Donc ce combat pour la vie, il est importantissime, je dirais, au-delà de toute considération politique, géopolitique. Voilà, ce sont des gens qui meurent en mer. On ne peut pas concevoir de laisser des enfants mourir dans une piscine. Eh bien, on ne devrait pas concevoir en 2023 que des gens puissent mourir en toute indifférence en Méditerranée centrale. Donc c'est l'humanitaire, oui. Je confirme.
Nous les marins éphémères, navigateurs des putains, terriens chassés de la terre, nous, peuple migrant.
François, l'un des deux co-référents de l'antenne de l'île Grand Nord de l'association SOS Méditerranée. Vous pourrez le rencontrer à Arras le samedi 2 décembre de 14h à 18h à l'occasion du Forum des associations solidaires au Dojo à Arras, un événement organisé dans le cadre du Festisol, Festival des Solidarités.
Sauvages, font l'air au-dessus de nous, font l'air le grand large, l'embarcation tient le coup. L'embarcation tient le coup.